En choisissant ce sujet, j'ai peut-être pensé à vous faire plaisir, mais j'ai également tenu à me faire plaisir à moi-même. Ce vieux Paris, je l'ai souvent évoqué dans l'intimité de ma vie personnelle, mais je pense qu'il est possible d'objectiver ses réminiscences, ses rêveries, ses souvenirs, ses vagabondages, et de vous faire part de cette vie à Paris qui fut la mienne au cours des années, fin des années 20 et des années 30. Dans le journal des Goncourt, on trouve une très charmante remarque. Paris, notre vieux Paris, le Paris des mœurs, Paris s'en va. Eh bien, le Paris dont je vais vous parler, c'est également le Paris des mœurs, et c'est également un certain Paris qui s'en est allé. Je vais essayer de réévoquer, non pas avec le talent des frères Goncourt, mais avec mes moyens, et je dirais surtout avec mes impressions et mes émotions. C'est en effet une vision impressionniste que je vais vous donner de Paris, tout à fait subjective, singulière, où le matériau de ce que je vais vous dire a été au premier chef ma mémoire. J'ai travaillé à vif dans cette mémoire, je suis partie à la recherche du temps perdu que j'ai en grande partie retrouvé. Alors, mon propos, vous voyez, il est simple, il est humble, faire surgir devant vous quelques tableaux d'un Paris disparu, vu à travers une vie d'enfant, enfant blotti dans son quartier, qui était le quartier des Batignolles. À cette époque-là, et j'insisterai beaucoup sur ce point, on chantait beaucoup. On chantait dans les rues, on chantait dans les cours, on entendait chanter par la fenêtre, et l'un des refrains en vogue était « À qui il était beau, mon Paname ?» Ça, c'était sur toutes les lèvres. Et il est bien vrai que pour un Parisien, son Paname est ce qu'il y a de plus beau au monde. Je dirais que, même de nos jours, vivre à Paris, je considère que c'est un privilège. Il est toujours possible de s'enfoncer dans la familiarité bon enfant d'un quartier, même si ce n'est pas son quartier. Mon quartier à moi, c'était donc les Batignolles, ancien village, s'accolant d'un côté sur le village de Monceau, devenu après les travaux de Haussmann, le quartier le plus prestigieux de Paris, le 17e, quartier chic, quartier élégant, dont vous trouvez la description dans le beau livre d'Émile Zola, La Curée. Mais de notre côté, changement de décor total, c'était un quartier beaucoup plus populaire, beaucoup plus humble, beaucoup plus pauvre aussi, le quartier des Épinettes. La vérité, singulier et charmant, m'apparaissent ces Batignolles de mon enfance, populaire, bon enfant, avec cependant ce je ne sais quoi qu'on respirait dans l'air, je ne sais quoi d'artiste, de bohème, qui je pense était en partie lié aux présences invisibles des peintres impressionnistes qui en avaient fait leur lieu d'élection. Je rappelle simplement pour mémoire qu'Edouard Manet habitait rue Médéric, dans ce que les agents immobiliers appellent le beau 17e, mais aussi dans des rues plus humbles, plus simples, plus batignolaises, par exemple la rue des Dames, où Renoir logeait avec Basile, non loin de Zola, qui a habité quelque temps précisément dans la rue qui était la mienne, la rue d'Autancourt, au numéro 1. Donc il y avait comme une ambiance, une atmosphère qui, je pense, subsistait de tout ce monde de rapins, de poètes, de romanciers, de folliculaires, qui se retrouvaient dans la fameuse brasserie Gerbois. Il se situerait aujourd'hui dans l'avenue de Clichy actuelle, au numéro 9. Un café que les romanciers ont abondamment décrit. Citons pour mémoire la nouvelle d'Alphonse Daudet, une champignonnière de grands hommes, la manette Salomon des frères Goncourt et l'œuvre de Zola. Alors, qu'étaient donc ces Batignolles? Eh bien, c'était un quartier, un univers bigarré de rentiers, d'ouvriers, d'employés, somme toute de petites gens, descendants de ces premiers Batignolais qui s'étaient installés là à la suite d'une entreprise de spéculation qui remonte à 1845, entreprise qui décida de remplacer par la pierre des terres où il y avait quelques fermes, quelques vallons, quelques prairies avec des troupeaux, voire même des bergers. La promotion immobilière commençait et un certain Puteaux avait fait démolir une très belle abbaye médiévale de Seine-et-Oise pour transporter les pierres vers les Batignolles et pour y édifier quelques immeubles de rapport. Alors peu à peu, donc, le quartier s'urbanise, naissent donc des maisons, des immeubles, mais aussi beaucoup de petits pavillons avec des jardinets qui étaient considérés comme ce que nous appelons aujourd'hui des résidences secondaires, petites demeures entourées de roses trémières et de glycines. Je me souviens encore d'ailleurs dans mon enfance avoir découvert de ces jardinets dans les rues perpendiculaires à la rue Legendre, à savoir la rue Le Mercier, la rue Truffaut et la rue Nollet. Alors, ma maison a été à elle seule un panaché de ces types de Parisiens propres au quartier. Alors, j'ai essayé d'en faire rapidement l'inventaire. L'immeuble abritait un employé des chemins de fer et sa famille, une couturière en chambre, l'adorable Mademoiselle Blanche, faisant hommage à la mémoire de toutes ces personnes qui furent extrêmement gentilles à l'égard de l'enfant que j'étais, une institutrice à la retraite, Madame Marguerite, qui tous les jeudis m'offrait du chocolat et des brioches, une marchande des quatre saisons et sa famille, la femme, portait alors la tenue de sa profession, une jupe à petits plis en satinette noire, un tablier, un châle de laine croisé sous les seins, des gros bas de laine noire et des sabots. Il y avait également dans ma maison un couple de vieux artistes retraités, jadis chanteurs à la Gaîté Lyrique, qui nous procuraient des billets à prix réduit pour la Veuve Joyeuse et pour Frasquita. Enfin, il y avait d'authentiques princes russes, les Gortchakov, où la jeune fille, tout comme maman, s'adonnait à la broderie pour la maison Paquin, rue de la Paix, et occasionnellement à la figuration dans les studios de cinéma de Boulogne-Billancourt. Alors tout ce monde, bohème peut-on dire, plus souvent impécunieux qu'économe, était considéré de haut par les habitants des beaux quartiers qui disaient que les Batignolles, c'était du côté des barrières. Mais c'est vrai, les barrières étaient jadis à la hauteur de la place Clichy. Et la statue du général Moncey y commémore encore les combats qui furent livrés contre les Prussiens et les Russes. Souvenirs héroïques auxquels se mêlaient des souvenirs plus légers, encore une fois, je fais référence à un de mes ouvrages préférés, le journal des Goncourt, l'auberge du père Latuile, qui jouxtait l'ex-cinéma du Gaumont, hélas démoli, auberge où tellement de joyeux drilles et de grisettes avaient fait bombance sous les bosquets avec du vin bleu et des fritures. Il y avait là également des petites tonnelles qui abritaient volontiers ce que Brassens appellerait des amours roturières. Pour un Parisien d'aujourd'hui, qui est un homme pressé, pressé de retrouver après son travail son canapé et sa télé, de plus habité par une sacro-sainte trouille, moi je comprends très mal, qui concerne tout le monde des ténèbres, tous les individus ténébreux, les couloirs du métro, etc. Bon, alors cette époque-là, ça n'existait pas du tout. Il n'y avait pas de danger. Et ce Parisien, il vivait dans la rue, absolument immergé dans cette rue et par le spectacle qu'elle vous proposait. Et si les rues des Batignolles vous marquaient de leur empreinte, c'était très différent d'habiter par exemple la rue de la Condamine qui avait un petit côté comme il faut, disons, ou alors la rue Chapelet où il y avait pas mal de filles galantes, ou encore la rue Legendre qui, par les petits numéros, se continuait par la rue Georges Berger et donnait sur le parc Monceau et la rotonde de Nicolas Ledoux, érigée au XVIIIe siècle. Le cœur des Batignolles était l'église Sainte-Marie des Batignolles. Je vous signale au passage un très joli petit livre de Joseph Roth qui s'appelle « La légende du saint buveur d'eau ». qui a pour cadre justement...
On fait un film.
Oui, voilà, un très joli film. Malheureusement, qui est passé presque clandestinement sur nos écrans. Alors, la façade de cette église, dont l'érection avait consacré en quelque sorte l'autonomie des Batignolles, cette façade donnait sur une très jolie petite place en demi-lune, et l'abside donnait sur une autre place, la place Charles Fillion, jouxtant ce paradis de nos enfances, le square des Batignolles. Mais pour le square, je me réserve pour un peu plus tard, je parle encore de ma rue, cette rue qui était balisée de part en part par des points forts qui étaient autant de lieux de plaisir et d'émotion. Il y avait évidemment l'école, où j'entrais à l'âge de 3 ans, parce qu'il y avait la maternelle et la grande école, 16 rue d'Autancourt. Et puis il y avait, au numéro 3, une librairie papeterie, qui était pour moi comme un lieu d'enchantement, parce qu'elle abondait en illustrés de tout genre, et alors chaque semaine les illustrés étaient accrochés par des pinces à linge sur un fil de fer à l'extérieur, et alors tous les mômes qui voulaient lire ces illustrés, Finiclé, Bibi Flicotin, faisaient pour ainsi dire du plat ventre à hauteur du trottoir, et les commerçants, les libraires, les laissaient faire. Cette librairie était un lieu ouaté, fréquenté par des ecclésiastiques. L'église Saint-Michel n'était pas loin, elle était à une vingtaine de mètres. Je l'avais vue s'édifier sous mes yeux, vilaine église de briques rouges, avec au devant un Saint-Michel en train d'oxyre le dragon. Et cette librairie était comme une annexe de la sacristie, avec des prêtres qui allaient et venaient, alors on entendait sans arrêt « Bonjour monsieur le curé, merci monsieur le curé, au revoir monsieur le curé ». C'était vraiment quelque chose, peut-être qui existe encore dans le quartier Saint-Sulpice, enfin, je n'en sais rien. Ces magasins, cette librairie, jouxtaient une pharmacie, mais alors c'était une véritable officine d'apothicaire, ne serait-ce que par la personnalité du pharmacien. Il s'appelait monsieur Artus. C'était un honorable vieillard avec une barbe qui arrivait presque à la hauteur des genoux. Une grande barbe blanche et pointue, et cet homme était vraiment la pharmacie incarnée. On n'avait pas besoin de passer par le docteur, il délivrait à qui décrivait ses malaises, des onguents, des suppositoires, des sirops. C'était vraiment la providence du quartier. De l'autre côté de la rue, en allant vers les grands numéros, la partie de la rue qui jouxtait la rue d'Avy, elle-même donnant dans l'avenue de Saint-Ouen. Alors là, il y avait un spectacle intéressant, c'était celui des blanchisseuses, mais alors vraiment, quand j'ai vu le film Gervaise, avec Maria Schell, c'était exactement un tableau de Gervaise. Ces blanchisseuses étaient des gaillardes qui, dès le matin, installaient sur le trottoir, sur un petit tabouret, des baquets, et alors là, il y avait une montagne de linge crasseux qu'elles immergeaient, frottaient, battaient à longueur de journée en s'interpellant. Et alors, ce qui nous fascinait, c'est que l'eau qui avait servi à laver toute cette crasse était déversée dans le caniveau. Elle était bleue. C'était quelque chose de quasiment magique. Et dans cette eau, on faisait flotter des petits bateaux. On avait déjà l'impression de l'océan. Le trottoir était le domaine des poulbeaux. Le nombre de gosses qui vivaient dans la rue, c'était, on les lâchait le matin, et puis jusqu'au soir, ils étaient là avec leurs galoches, leurs espèces de petites planches à roulettes avec lesquelles ils dévalaient la rue, et également avec leurs chapeaux de papier et leurs petits bateaux de papier. Ces gosses qui ont très bien immortalisé poulbeaux. La rue d'Autancourt n'avait pas que des lieux de travail ou de fascination, comme la librairie des ecclésiastiques, il y avait aussi un café mal famé avec des filles qui tenaient leur quartier et qui s'animaient le soir avec des clients qu'elles entraînaient généralement dans une petite rue voisine que nous on avait surnommée la rue des crottes de chiens, qui s'appelait la rue Saint-Jean, dans laquelle se trouvait justement l'église. Et cette rue était aussi connu pour abriter des petits hôtels, mais alors il faut les avoir vus ces hôtels. Moi je suis allée y voir une dame que connaissaient mes parents qui avait élu domicile là avec un matador blessé au cours d'une corrida. On les appelait les hôtels à punaises. C'était des hôtels mais absolument infestés de punaises avec des prix très abordables. Les soirées étaient longues, surtout l'été. La rue grouillait de monde. jusqu'à une heure avancée de la nuit. Quand je pense que maintenant, certaines des dames de ma maison appréhendent de sortir après 18 heures, mais alors, les gens étaient dehors, ils allaient, ils venaient, ils faisaient pisser le chien. Le matin, les femmes sortaient en chemise de nuit, avec un châle jeté sur les épaules, avec le cabot au bout de la laisse. Le soir, on allait s'attabler dans un café pour prendre une grenadine. La vie ne s'arrêtait que très tard. Le matin, l'ouverture, on peut dire, de la journée, c'était les sabots des percherons qui livraient le lait chez Maggi. Puis ensuite, la rumeur des enfants, parfois accompagnés par les parents, se rendant à l'école. Vers 9-10 heures, le tableau changeait, c'était les ménagères en cheveux. Alors, à cette époque-là, il y avait une discrimination très rigoureuse entre les femmes en chapeau et les femmes en cheveux. Alors les Batignolles, c'était un quartier de dames en cheveux, avec le cabas de Moleskine sous le bras, qui se rendait au marché, en l'occurrence rue des Moines ou rue des Épinettes. Alors là, c'était une véritable partie de plaisir, parce qu'en dehors du spectacle qu'offraient les petites voitures, les appels des commerçants qui vantaient leurs marchandises, il y avait déjà la musique, il y avait des accordéonistes qui profitaient de ce rassemblement de jeunes personnes, généralement jeunes, pour débiter le refrain à la mode, et pour vendre, ça coûtait 10 centimes. La petite partition avec refrain et couplet, et en général sur la couverture, un portrait grossièrement esquissé de Miss Tinguette ou de Damia ou de ces étoiles de l'époque. Maurice Chevalier, Marie Dubas, Lucienne Boyer, enfin, toute mon enfance a été ponctuée par les roses blanches. Là, je peux vous dire que ce vieux Paris que j'évoque aujourd'hui, c'était le Paris de la chanson. Tout le monde chantait. Les cyclistes, les petits cyclistes chantaient, les gens fredonnaient. Il suffit d'ailleurs d'ouvrir aujourd'hui un de ces beaux albums de Robert Doisneau ou de Brassailles pour voir ces spectacles de chanteurs et d'accordéonistes des rues, avec les passants qui entonnaient le refrain. Du matin au soir, chanteurs et chanteuses se succédaient dans les rues, chantaient leur refrain, et alors on leur envoyait quelques piécettes. Moi, je me souviens, à la maison, il y avait une petite soucoupe avec des pièces de 1 sou, 2 sous et 10 sous pour les artistes, disait-on. C'est-à-dire quand il y avait quelques trémolos et que vraiment le chanteur, la chanteuse se donnait du mal, là, on se fendait de 50 centimes. Mais dans la rue, il n'y avait pas que les artistes. Il y avait aussi tous les petits métiers de Paris qui se succédaient à longueur de journée. Il y avait le marchand d'habits. Il y avait le vitrier. Il y avait le rémouleur, plus d'autres petites choses oubliées, telles que les vendeurs de papier d'Arménie. Et alors ça a été très très bien décrit par les Goncourt dans leur cri de Paris. Et pour qui aimait le spectacle de la rue, les accoudait à la fenêtre, c'était à chaque instant découvrir quelque chose de nouveau. Et l'été s'ajoutait à ce spectacle des fenêtres le plaisir de traîner des chaises sur le trottoir et de s'installer ici pour faire une causette avec la pipelette, avec les voisins, avec les passants. C'était extrêmement familier et gentil. J'entendais toujours, on va voir ce qui se passe. Alors, ce qui se passait, il y avait toutes sortes de choses. Il y avait une fille qui passait en chaloupant et puis des gars qui, plus ou moins, la suivaient en la lorgnant. Il y avait aussi bien des chiens qui s'accouplaient. Et alors là, évidemment, on se faisait mourir gêné par nos parents lorsqu'on les regardait, mais enfin les parents y jetaient un petit coup d'œil également. Et il y avait aussi le troupeau de chèvres qui faisait son apparition. Alors là, j'ai appris par un de mes amis historiens que c'est une franchise qu'Henri IV avait donnée aux chevriers l'autorisation de rentrer dans Paris avec les troupeaux parce que lui-même, enfant, avait été allaité par le lait d'une chèvre. Alors je dirais que cette rue, qui pour moi était évidemment le cœur battant du quartier, c'était le centre d'où diffusaient toutes sortes de choses, tout aussi envoûtantes. Ces Batignolles, elles avaient, je dirais, leur côté de chez Svan et leur côté de chez Guermantes. Parce que si on s'en allait vers l'ouest, on arrivait jusqu'au quartier chic du parc Monceau, et si on descendait vers le nord, alors là, on traversait l'avenue de Saint-Ouen, et on atterrissait, on marchait aux puces de Saint-Ouen. Alors, selon les jours et selon l'humeur, nous allions, quand je dis nous, c'était moi, la personne qui me gardait, ma mère, ma grand-mère. Nous allions ici ou là. Alors, ce qui était tout à fait charmant, c'était par exemple le quartier des Batignolles, avec la rue Legendre et la rue des Batignolles, où le... c'était un magasin qui malheureusement a disparu il y a 2 ou 3 ans, mais qui a survécu une cinquantaine d'années, qui s'appelait Au Bébé Choyé. Alors là, il y avait un petit garçon et une petite fille grandeur nature, en cire, qui selon les saisons, arborait des marinières, des bérets à pompons, des petites robes de cretonne, des costumes marins, des costumes de communiants. Alors ça, c'était véritablement un lieu de grande fascination. À nous qui, en général, nous baladions, même à la sortie de l'école, en sarrau noir et en galoche, avec le ruban de classe épinglé qui indiquait à quel niveau nous appartenions. Les points les plus fascinants pour les enfants de ce quartier, c'était les squares. Alors, je mets en première place le square des Batignolles. Si vous y allez, c'est extraordinaire, parce qu'il est resté tel qu'il était, avec son style rococo, et il paraît, j'ai lu récemment dans une revue d'histoire, que les manèges d'enfants, ce sont exactement les mêmes que ceux où nous enfourchions des chevaux lorsqu'on avait 7, 8 et 9 ans. Il y a toujours la même topographie, les mêmes statues des poètes parnassiens, la même disposition avec le haricot, le kiosque, etc. Là d'ailleurs, je vous signale qu'il y a de très beaux guides de Pierre Auray, H-O-R-A-Y, sur les quartiers de Paris, sur les jardins, sur les squares. Je crois même qu'il y a un livre qui inventorie tous les squares du quartier. Il y avait également, outre les Batignolles, les épinettes. Vous voyez, alors ça c'était le côté un peu plus peuple. Et puis aussi, un petit peu plus loin, le square Carpeaux, en allant vers Montmartre, et le square Vintimille, à la hauteur de la place Clichy. Nous y passions des heures dans ces squares, à flasher des petits bateaux sur les espèces de ruisselets qui traversaient le jardin, à jouer à cache-cache. Le jardin d'ailleurs était balisé, il avait ses lieux. Par exemple, le square des Batignolles, il y avait le haricot, la demi-lune, sans oublier évidemment les kiosques où de temps en temps il y avait la musique. C'est là d'ailleurs que nous fûmes notre éducation musicale avec Espagna de Chabrier, poète et paysan de Carl von Suppé, le beau Dany Bleu et Ciboulette de Reynaldo Hahn. Il y avait des petites baraques où on débitait des petites friandises bon marché, telles que bâtons de réglisse, bâtons de bois de réglisse, lacets, coco bauer et berlingots poisseux. Il y avait également au bout du square des Batignolles, vers la gare, un guignol. Mais un de nos plus vifs plaisirs, c'était de voir passer le train et de faire des signaux aux voyageurs qui d'ailleurs, j'ai remarqué, nous rendaient toujours. Ils disaient bonjour, je ne sais pas si aujourd'hui les gens qui se dépêchent de rentrer à Maison Lafitte ou à Saint-Germain répondraient à ces saluts. Mais, outre ces petits paradis de mes enfances que furent les squares, il y avait aussi des lieux qui ont été très bien décrits par les frères Goncourt. Par exemple, dans Germinie la Certeux, il décrit la sortie de Paris avec les talus où le gazon se raréfie, avec les espèces de petites guinguettes plus ou moins louches, où Germinie la Certeux va danser le cancan. Eh bien, j'ai connu cela. L'un de ses trajets préférés, c'était la balade vers les fortifications, les fortifs. Les fortifs, c'était à cette époque-là un talus qui rassemblait une population hétéroclite. Il y avait aussi bien des gitans, des forains. Il y avait aussi une authentique comtesse russe, une amie de mes parents, qui était venue habiter là ben, parce que ses moyens ne lui permettaient pas de payer un loyer, et qui avait d'ailleurs fraternisé avec le peuple bigarré de ses buttes pelées, et elle leur faisait même parfois des côtelettes russes. En échange de quelques sous, elle les régalait. Alors, à cette époque-là, les fortifs, on peut dire, c'était des dernières traces de ce qu'avait été la protection de Paris, protection qui s'était avérée, hélas, pas du tout protective, et on l'appelait, une certaine nuance de mépris, la zone. En fait, c'était, comme je vous le dis, un talus chichement gazonné, avec des espèces de petites, ce qu'on trouve aujourd'hui dans les bidonvilles, c'était fait avec de la tôle ondulée, avec des cartons, et alors là vivaient des biffins, c'est-à-dire des chiffonniers, des forains,
des gitans, mais aussi quelques épaves de la vie parisienne, parmi lesquelles justement notre comtesse russe, qui disait s'accommoder fort bien de ce voisinage que les bourgeois qualifiaient d'escarpe ou d'apache. Au besoin, elle leur faisait partager son ordinaire. Ils sont gentils, nous disait-elle. Oh, ben, en tout cas, pour moi, c'était un lieu absolument fascinant que ces fortifs, parce qu'il y avait des enfants gitans avec lesquels je faisais des galipettes. Et nous regardions aussi les répétitions des spectacles de foire. Je me souviens en particulier des fiers à bras en maillot rose et avec des bracelets de cuir qui soulevaient des poids et également des briseurs de chaînes. Je ne sais pas si on voit toujours ça encore. Alors ça, c'était un spectacle absolument fascinant pour des enfants. On faisait au besoin des pique-niques sur ces fortifs et pour y aller, nous descendions l'avenue de Clichy qui devenait de plus en plus populaire, de plus en plus honnarde. Là, alors, on a fait des découvertes extraordinaires. On a découvert, par exemple, une maison en ruine où gîtait, je n'ai vu l'équivalent que dans les espèces de douves qui entourent la ville de Rome, profonde, avec tout un peuple de chats. Alors là, justement, on avait découvert tout un peuple de chats, mais alors c'était tout à fait extraordinaire. C'était des chats qui étaient très organisés, ils avaient un roi, qui était un énorme chat roux, borgne. Et alors, j'allais là-bas, j'y allais avec en général maman et puis une dame de mon immeuble qui adorait les chats. Quand on a découvert cette population de chats, on leur apportait de la pâtée. Et alors, c'était très intéressant parce qu'on posait cette pâtée sur un bout de journal. Et alors, il y avait le roi des chats qui s'avançait le premier, avec tous les autres chats qui restaient à distance. Il se servait, il mangeait abondamment, et c'est seulement après qu'il partait en se pourléchant les babines et que les autres chats pouvaient accéder et manger les reliefs. Bon, alors ça, voyez-vous, par rapport au Batignolles, c'était vers le nord, c'était vers le bas. Mais alors, en montant vers le haut, il y avait ce lieu, actuellement, vous penseriez peut-être, il n'y a vraiment pas de quoi voir quelque chose de merveilleux, mais pour nous, c'était merveilleux, c'était la place Clichy. Ah, alors là, c'était extraordinaire, parce qu'alors, il y avait deux points forts, il y avait le café Veppler, qui existe toujours, et il y avait le Gaumont Palace, qu'on a érigé alors que j'étais enfant. Je suis allée au premier spectacle du Gaumont Palace, je devais avoir 5 ou 6 ans. Oh, alors là, écoutez, l'orgue qui sortait de terre, le bar, les bars tout autour du cinéma, les fauteuils confortables, enfin on avait vraiment l'impression d'être dans un palais. Quant à la brasserie Veppler, j'avais des parents qui adoraient les cafés et cette possibilité de jouer du spectacle de la rue qu'on avait des cafés. Alors là, on a passé beaucoup de soirées, surtout l'été, des soirées aussi des après-midi. Alors, il y avait deux pôles d'attraction. Il y avait le départ pour les courses, Longchamp première, et alors tous ces hommes en chapeau mou qui s'enfouissaient dans ces autocars. Alors les autocars, c'était à peine s'ils s'arrêtaient. Ils ralentissaient. Tout le monde rentrait. Il y avait un type qui criait Longchamp première, Auteuil. Les gens rentraient avec leur chapeau mou, la voiture démarrait, et puis après il y en avait une autre et ça continuait. C'était une fébrilité extraordinaire. Et puis ding ding ding, il y avait le tramway qui partait pour le bois de Boulogne. Et ça, Dieu sait que je l'ai pris souvent, ce tramway. Cette place Clichy, donc c'était un pôle merveilleux. Alors, je me demande si les terrasses ont gardé tout cet aspect fascinant, parce que tout se passait à la terrasse. Il y avait d'abord toutes sortes de petits marchands à la sauvette. Cartes postales, crayons, etc. Deuxième chose, il y avait ce que Marcel Proust a très joliment décrit dans « À la recherche du temps perdu », les Japonais qui présentaient des espèces de dépliants en papier gaufré auxquels on pouvait donner toutes sortes de formes. Et d'ailleurs, Marcel Proust a été sensible à la beauté, à ce caractère vraiment féerique de ces dépliants. Alors ça, j'ai très bien connu ça. Et puis il y avait aussi, ce qui intéressait beaucoup la gamine que j'étais, le marchand de cacahuètes, qui déposait quelques cacahuètes, quitte à revenir plus tard. Alors cette place Clichy, ça a été le pôle de nos enfances, puisqu'ensuite, nous fûmes élèves du lycée Jules Ferry, et nous arpentâmes, Dieu sait combien de fois, j'ai essayé de faire le dénombrement, en 7 ou 8 ans, combien de fois on a pu faire le trajet menant de la Fourche à la place Clichy, 4 fois par jour. Voilà, mes parents étaient des émigrés russes, bien nés mais sans pognon. C'était le cas de la plupart des Russes. Et alors, pour gagner sa vie, on faisait un petit peu de tout, et en particulier les jeunes femmes, comme maman, faisaient du cinéma. elles allaient au studio de Boulogne-Billancourt. Il y avait d'ailleurs beaucoup de metteurs en scène qui étaient venus de Russie et qui tournaient des films et qui faisaient appel aux Russes, tant pour la figuration que pour des rôles plus importants. Entre autres, ma mère et mon grand-père ont fait la figuration de la Jeanne d'Arc de Dreyer avec Falconetti. Alors, il y avait cette fascination pour le cinéma. J'ose à peine dire ça maintenant où il y a tellement de principes pédagogiques concernant nos chères têtes blondes, mais moi, enfant, à partir de 3-4 ans, j'allais 3 ou 4 fois par semaine au cinéma. Alors ça, c'était l'émerveillement, c'était encore le cinéma muet à cette époque-là. Alors Dieu sait que j'empoisonnais ma mère, qui était adorable d'ailleurs. Qu'est-ce que le monsieur dit à la dame? Pourquoi il a l'air fâché? Alors, il est fâché parce qu'il y a un autre monsieur qui tourne autour de la dame. Alors ça, c'était 3 fois par semaine au bas mot. Et ce que j'ai pu voir comme film, c'était absolument inouï. Et c'est là d'ailleurs que j'ai vu mon premier film parlant. C'était Minuit Place Pigalle. Alors ça, je peux dire que j'ai presque sucé l'amour du cinéma avec le lait maternel. Et alors ça, c'est comme la lecture, ça ne m'a guère quitté depuis. En ce sens que j'aime le cinéma et je peux dire que je pourrais y aller tous les jours au cinéma. On ne disait pas encore, ça c'est pas un film pour les enfants. Mes parents avaient envie d'aller au cinéma, pas de question de prendre de babysitter. Ils m'emmenaient, puis moi je gigotais là, essayant de comprendre ce qui se passait entre le monsieur qui avait l'air fâché et la dame qui demandait pardon. Alors, le cinéma, mais il y en avait une quantité dont on ne peut pas se faire l'idée aujourd'hui. J'en ai dénombré au moins 8 ou 10 entre la place Clichy et la rue Brochon. Alors je vais les énumérer parce que je m'en souviens très très vite. Il y avait le Select, en face duquel s'ouvrirent après les Mirages, le Clichy Palace, le Condamine, rue de la Condamine, le Legendre, le Gloria, le Printanière rue Brochon, le Chanteclair, qui devint plus tard le Gaîté Clichy. Alors si on y ajoutait le Métropole, si au carrefour Marcadet-Balagny, et si on tient compte du fait qu'à chaque représentation, il y avait au moins 2 films de programmés, c'était encore l'usage au cours des années 60 au cinéma Le Marcadet, où je vis les dernières attractions. On peut imaginer le bonheur de la population. On allait beaucoup au cinéma. Par ailleurs, à cette époque-là, lorsque j'étais enfant, il y avait encore des théâtres dans l'avenue de Clichy. Il y avait le Kurzal, qui se trouvait en face du Select, et où j'ai pu voir d'ailleurs des choses étonnantes, des rescapés du théâtre Stanislavski de Moscou, qui jouait des pièces en russe, qui, vous imaginez aujourd'hui le succès que ça aurait, ben les gens allaient écouter du russe, ils disaient, ben c'est intéressant. Il y avait un merveilleux petit music-hall européen, Rubio, alors là, ça allait de l'opérette marseillaise, autour de chants, Suzy Solidor, Tino Rossi, les débuts de la Mompiaf, tout ce qu'on peut imaginer. André Baugé, pour cette époque, ça ne dit plus grand-chose. Marie Dubas, Suzy Solidor, et puis où on jouait également des opérettes marseillaises. Il y avait aussi un petit théâtre, rue Moncey, qui s'appelait le Théâtre Moncey. Alors, pour moi, si vous voulez, mes souvenirs d'enfance, ils sont placés sous le signe de la chanson. Tout le monde chantait, tout le monde fredonnait. Là, d'abord, la chanson était la reine du pavé. Aussi bien les jeunes que les vieux. Maintenant, moi, j'ai remarqué que de temps en temps, quand je fredonne comme ça dans la rue, eh bien, les gens se retrouvent, ils disent, c'est pas le travail du chapeau, cette pauvre dame, ça commence à... Bon, à cette époque-là, on fredonnait. Et alors, l'emblème de ce goût pour la chanson, c'était au métro Fourche, le célèbre Bouboule, qui était un marchand de chansons, qui connaissait absolument tout le répertoire de ce qui se créait, lui parlait de nerfs et disait, mais fredonnez-le, je vous dirai ce que c'est. Alors, on lui fredonnait quelque chose, aussitôt il vous sortait un petit lambeau de papier à 10 centimes, et c'était la chanson. Il suffisait qu'on lui dise 2-3 mots d'un refrain entendu la veille à la TSF pour qu'aussitôt il identifiait la chanson. Il dit, ah, mais ça c'est Marie Dubas, je vais vous la donner. Ça, ce Bouboule, c'était véritablement le personnage du quartier. Moi, je dois dire que je m'y arrêtais presque tous les jours. Il était au métro Fourche. Alors, il avait épinglé ses chansons avec des pinces à linge sur les grilles en fer forgé du métro. Là, je peux dire que la chanson, c'était l'accompagnatrice de ce Paris des mœurs dont parlent les Goncourt quand ils disent Paris, notre beau Paris, le Paris des mœurs s'en va. Ben, il y avait encore le Paris des mœurs au cours des années 20 et 30. Et tous les petits événements de la vie quotidienne étaient scandés par des chansons. Par exemple, quand un garçon suivait une fille, Eh bien, en général, l'entrée en matière, c'était un refrain qu'il chantait. Femme, que vous êtes jolie, voilà, ça commençait comme ça. Quand on avait 14-15 ans, quand il y avait un gars qui faisait le fier à bras comme ça, nous on chantait à sa suite, c'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques, voilà. Même quand on se promenait au bord de la Seine, quand des amoureux s'accoudaient pour regarder fuir les eaux, eh bien, parfois, le jeune homme chantait à la jeune fille, ou le contraire, le chaland qui passe. C'était le refrain de l'époque. Alors, la rue, je veux parler de la rue, parce que aujourd'hui, la rue, c'est devenu un truc par lequel on passe. On dit, oh ben tiens, par exemple, pour aller là, rue David, vous prenez la rue Clichy, la rue d'Autancourt. Mais dans la rue, vraiment, on vivait. Il y avait une vie de la rue. D'abord, c'était le lieu, j'emprunte l'expression au Goncourt, c'est tellement joli, de la flâne. C'était le lieu de la flâne, c'était le lieu des causettes et c'était aussi le lieu des rencontres. La rue avait ses enfants que tout le monde connaissait. Les concierges savaient que, bon, il y avait Titine, il y avait Julot, voilà, Julot avait les oreillons, Titine s'était enrhumée, c'était les enfants de la rue. Il y avait les amoureux, on assistait à la naissance d'une passion, et il y avait aussi ces mémés, pas encore de mamie, c'était vraiment les mémés. Et on peut dire que tout ce monde-là se blottissait dans la rue comme dans son nid. La rue accueillait les nouveau-nés, elle escortait à leur dernière demeure les défunts, qui étaient d'ailleurs signalés par d'imposants rideaux noirs et blancs, noirs pour les adultes, blancs pour les enfants. Et quand il y avait un décès dans la rue, eh bien toute la rue suivait à pied l'enterrement. Les enfants de la rue étaient très choyés. Et il n'y avait pas de commerçant qui ne leur manifestât un geste de gentillesse. Par exemple, à l'épicerie, on leur donnait un de ces tout petits caramels plats, 2 pour 1 sou, ou alors un berlingot. Chez le coiffeur, c'était un petit morceau de papier buvard imprégné de la violette de cher ami. On peut dire que moi, j'ai été vraiment l'enfant de ma rue. C'était pas du tout une époque où on évaluait les gens d'après l'importance des achats qu'ils faisaient. Pas du tout. Il y avait des gens perpétuellement endettés, les enfants n'en recevaient pas moins leurs bonbons et parfois leur image, parce qu'à cette époque-là, on donnait encore des images. Je suis née en 21. C'était une époque, d'ailleurs, qui portait encore les cicatrices de ce qu'on appelait, lors de mon enfance, la Grande Guerre. Le préau de l'école de la rue d'Autancourt présentait des affiches de Poulbeau, de ces affiches à nuances mélancoliques, on voyait par exemple un garçonnet avec un calot de papier battre du tambour pour saluer un soldat rentrant du front. Voilà l'ambiance dans laquelle j'ai grandi, dans un monde où il y avait encore ces enfants qu'on appelait les pupilles de la nation. Et alors, de ce fait, il régnait à l'époque dans l'air un mélange de mélancolie, mais aussi de bonhomie et de tendresse. Et le quartier, c'était vraiment comme un nid dans lequel pouvaient se blottir aussi bien les tout-petits que les personnes âgées. Et la rue était extrêmement marquée par quelque chose qui aussi s'est un peu effacé par les saisons. L'entrée dans l'hiver, par exemple, c'était les braseros vers lesquels les passants tendaient leurs doigts engourdis. Il y avait le marchand de marrons qui était souvent à l'entrée d'un bureau de tabac et qui parfois offrait aux merveilles des kakis succulents. Et on sentait très bien le changement de saison. Il y avait la rentrée des classes avec l'odeur des sarraux d'alpaga et de satinette et des cartables tout neufs. Il y avait le printemps avec les violettes où pour les fillettes, les soquettes remplaçaient les bas et où fleurissaient au coin des rues les narcisses et les jonquilles. L'été, c'était le moment où on sortait les chaises sur le trottoir jusqu'à minuit environ. Avec l'automne, arrivait un personnage fantastique, hoffmannien. C'était l'allumeur de réverbères. Chaque jour, il apparaissait un peu plus tôt. J'ai le souvenir à l'école maternelle de ce moment où la pénombre s'installait et où nous avions assez peur jusqu'à l'arrivée du concierge qui arrivait avec un grand bâton pour allumer les becs de gaz sur le mur de l'école. J'ai connu l'éclairage au gaz jusqu'à jusqu'à mes 4-5 ans, vous savez, le bec fiché au-dessus de l'évier, et alors l'installation de l'électricité, ça c'était quelque chose qui tenait de la féerie. Il y avait des gens pauvres, ils n'avaient pas honte, ils ne se cachaient pas, peut-être les gosses pauvres de la rue, on les gâtait un petit peu plus. Il n'y avait pas cette espèce de vanité, je dirais, bourgeoise qui faisait qu'il fallait à tout prix cacher, que deux fois j'ai entendu des marmots demander chez l'épicier du coin 5 sous de pâté de foie à crédit. On le donnait toujours. C'était une période effectivement où on n'était pas riche. En tout cas, moi, j'étais une enfant d'émigrés russes qui avait été bien en Russie et qui était devenue des gens vivant dans le besoin. Et je ne sais pas si j'ai connu la pauvreté, j'ai connu en tout cas quelques difficultés financières, mais avec cette espèce de fatalisme et peut-être aussi de légère imprévoyance russe. Chaque jour suffit sa peine. On dépensait ce qu'on avait gagné dans la journée, puis quand on n'avait rien, on mangeait rien, on mangeait quelques croûtons de pain trempés dans du chocolat ou dans du lait. Il n'y avait pas de honte de la pauvreté. Ce qu'il y avait, c'était qu'il y avait des mini-drames, par exemple, quand on trouvait une paire de souliers. Moi, je sais que j'ai reçu des baffes parce que mes souliers étaient trouvés. Et alors, moi, j'ai reçu des leçons de la démarche qui n'use pas les semelles de souliers. On me dit, tu attaques le sol avec la pointe du pied. Alors là, le problème de l'achat d'une paire de chaussures, alors d'un manteau, mais un manteau, ça devait faire 10 ans, un manteau. C'était un événement. Alors les catalogues, le soir, à la veillée, on comparait les prix, on lisait le descriptif, la parure en soisette ou madopolam, pistache ou saumon, avec tous les rêves que ça véhiculait. On disait, un jour on sera plus riche. Le fameux bébé choyé de la rue des Batignolles, avec ses petits-enfants tirés au cordeau, en marinière, en chaussettes blanches, en petits souliers vernis, eh bien ça sera peut-être, on pourra accéder à ce genre de toilette. Et puis on aurait enfin une chose dont j'ai rêvé toute mon enfance, que je n'ai jamais eue, la patinette. Cette patinette que certains enfants avaient au square des Batignolles, mais que je n'avais pas. C'était très important, le quartier et la rue, parce que, enfin, il faut bien le dire, il n'y avait pas de vacances. Les vacances, ça a commencé vers 1935, vers 1936, quand on sortait de Paris, pour les gosses, c'était le Prévent, on entendait Préventorium, l'avant-garde du Sana, ou alors des pique-niques au bois de Boulogne, parfois dans les bois de Viroflay ou de Saint-Cucufa, avec des œufs durs et du camembert. C'était ça la campagne. Parfois Versailles, mais enfin ça c'était quelque chose d'exceptionnel. Alors, il est temps d'en finir, j'ai écrit un livre de 300 pages où j'inventorie toutes ces choses, toutes mes émotions, l'école de la rue d'Autancourt avec ses merveilleuses institutrices en tablier bien repassé, que j'assommais parce que je voulais toujours avancer dans la lecture des livres. Je trouvais qu'on allait trop lentement. Alors elle me disait, viens me voir à la récréation et je te ferai lire. Oh, c'était des déesses, ces institutrices. Des femmes merveilleuses. Madame Caillé, en particulier, au nom bien choisi. Alors, j'ai donc griffonné quelque chose sur ces souvenirs. Enfin, c'est encore une fois autour de chansons que se regroupent mes souvenirs. La grande chanson de mon enfance, c'était « Les roses blanches ». Oh, alors là, qu'est-ce qu'on a pu sangloter en écoutant « Les roses blanches ». C'était « Quand refleuriront les lilas blancs ». Et je peux dire que ces chansons, elles ont rythmé notre vie tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Ça a été quelque chose qui a été le leitmotiv qui a à la fois résumé et symbolisé notre enfance. Je me souviens en particulier de certaines sorties du dimanche, où alors cette fois-ci on prenait le train à la gare Saint-Lazare pour aller dans les bois de Viroflay ou aux étangs de Ville d'Avray. Et alors ces retours avec du rêve plein les yeux, avec des bouquets de lilas qu'on avait cueillis, des souliers poussiérés, on était vannés, mais c'était extraordinaire, on était allé à la campagne. On avait respiré l'odeur des fleurs, on avait vu autre chose, et néanmoins, on était content de retrouver notre rue, on y rentrait comme dans un cocon, quand on arborait un nouveau tablier, on était félicité. Quand on revenait des primes, enfin c'était extraordinaire, avec la couronne sur la tête et la pile de livres. Les concierges nous attiraient dans leur loge pour nous donner un rhum sur du sucre, pour nous récompenser d'avoir bien travaillé. C'est quelque chose, enfin pour moi vraiment, c'est le vert paradis de mes enfances, voilà. Mon vieux Paris. Alors moi, je ne veux pas entonner le refrain de « Ah, de notre temps, comme c'était mieux, comme c'était bien ». C'est pas vrai, il y a sûrement des endroits où c'est encore très très bien. Moi, j'ai vécu rue d'Anne-Raymond, rue Vauvenargues, rue Marcadet, rue Montcalm. J'y ai vécu dans les années 60. C'était encore un quartier. Moi, j'allais travailler, je commençais au lycée à la porte d'Auteuil à 8 heures du matin. Je ne savais pas que faire de ma petite. Eh bien, je la laissais chez des cafetiers du coin qui la régalaient d'un chocolat. Et c'était le monsieur du café, le Dan Raymond, qui la conduisait à l'école lorsque les portes s'ouvraient. J'ai connu tout ça. Je voudrais vraiment rendre un hommage à ce peuple de Paris qui fut vraiment le plus gentil de la terre. Le plus généreux, le plus donateur de tous les biens, qui était bohème vraiment, qui ne pensait pas à placer son argent, mais qu'est-ce qu'ils auraient placé, les pauvres gens? Pas grand-chose. Quand quelqu'un de la rue s'en allait, mais c'était les plus mécréants se signaient devant la dépouille. Quand un enfant naissait, mais on attendait la jeune maman qui revenait de la maternité avec son petit baluchon enveloppé dans un molleton sur les bras, il n'était pas question de prendre un taxi. On la félicitait. Alors comment elle s'appelle? Elle prend bien son lait? Enfin, je peux vous dire que moi, qui viens quand même d'horizons assez lointains, mais je dois dire que j'ai été une petite Parisienne, une petite poulebotte, qui a vraiment vécu dans son Paris, et qui en garde, je dirais même pas que c'est pas un souvenir, c'est pas du passé, c'est un présent. Quand je sors du métro Fourche et que je commence à descendre l'avenue de Clichy, il y a un commerce qui n'a pas bougé, c'est un des rares d'ailleurs, c'est la parfumerie. Et que je vois les rues, la rue Saint-Jean, la rue des Crottes de Chien, les hôtels à Punaise, la rue d'Autancourt qui était ma rue, la rue Legendre où il y avait un cinéma, ensuite toutes ces petites rues, la rue du Docteur Relin, la rue de la Croix, la rue des Moines. C'est comme si je rentrais dans une vieille robe de chambre, moelleuse, agréable, et qui me tient chaud. Voilà, c'est tout.